Place Info.
Bonsoir à la une, la réforme des retraites, l'épreuve de force et le pays toujours bloqué. En attendant les annonces d'Edouard Philippe ce mercredi, c'est dans les informés avec nos invités. Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, avec Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et Gilles Bornstein qui vient d'arriver, éditorialiste politique à France Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Jean-Paul Delevoye a donc, comme prévu, rendu ses conclusions, point final de la phase de concertation menée depuis fin juillet. Une étape, on va dire, allez, obligée. Avant la présentation du projet après-demain, ce sera le grand jour avec Édouard Philippe, extrait du discours du haut-commissaire aux retraites.
Je retiens un consensus pour conserver l'ADN du système de retraite français, un système par répartition, et qui comprend une part importante de solidarité. Il y a aussi une demande forte de garantie de la valeur du point après l'entrée en vigueur du nouveau système. Et beaucoup souhaitent que cela prenne la forme de l'inscription dans la loi du principe que cette valeur du point ne pourra pas baisser.
Roselyne Fèvre, étape obligée, mais vraie fausse étape, nous n'avons rien appris.
Rien du tout. Ouais. C'est le Jean-Paul Delevoye, c'est l'anesthésiste en chef, en quelque sorte. C'est il parle comme ça, il a parlé une bonne, je l'ai écouté, une bonne quinzaine de minutes, oui. Mais je suis à peu près incapable de vous dire ce qu'il a dit, à part faire...
Il n'a fait que redire.
Il a fait part, si vous voulez, de ce qu'il avait dit au syndicat sur la... lorsqu'il a rencontré les Français, les propositions... Ouais. Des Français, mais en réalité, il y a aucune info. Et bien évidemment, il attend que il ne grille pas la politesse, en quelque sorte.
Évidemment.
Au Premier ministre mercredi. Ouais.
Gilles Bornstein.
Et moi, il fut un temps. Il y avait un homme qui s'appelait Emmanuel Macron, qui était en campagne électorale, qui disait le théâtre d'ombre de la politique, c'est terminé, le jeu de rôle, c'est terminé, le truc où chacun, on sait exactement ce qu'ils vont dire, mais on vient le dire quand même, etc. Tout cela, c'est terminé. À quoi on a assisté cet après-midi? Mais à une caricature de ça. C'est-à-dire, il était annoncé, voilà, c'est pour faire accord, c'est pour faire état des points d'accord et des points de désaccord. Mais autour de cette table, ça fait 6 mois qu'on les connaît, les points d'accord et de désaccord.
Donc, nous les évoquons,
c'était
une
parodie
aussi,
de démocratie sociale qui ne servait à rien du tout. Enfin, la rencontre, j'y étais pas. Et la conférence de presse, comme Roselyne, je l'ai écoutée. Alors, il a fait part de ce que les Français avaient dit lors des consultations, qu'on connaît tous également. Donc, il est vraiment
immeuble.
Ah voilà, immeuble, c'est ça. On sent immeuble. Il est vraiment temps qu'on soit mercredi midi et qu'on sache vraiment ce qui va se passer, parce que ça commence à être long, quoi.
Vous trouvez le temps long. Sophie de Menton, vous assisterez, vous, pour le mouvement éthique, à ce que dira le Premier ministre mercredi.
Mercredi au CESE, oui.
Oui, le Conseil économique, social et environnemental.
J'ai d'ailleurs président au CESE pendant 5 ans. Non, mais là, il ne faut pas tirer sur une ambulance. Bon. Jean-Paul Delevoye, il a, pendant 2 ans, fait croire, mais il a fait croire également aux gens qui étaient en face de lui qu'il y avait une négociation, parce que les syndicats sont quand même très difficiles sur un sujet pareil. Et donc, il les écoutait sans arrêt. Tout le monde était content. Vous avez remarqué que pendant 2 ans, il n'y a pas eu de vague.
Oui.
Et donc, tout d'un coup, il y a eu le principe de réalité. Il ne s'était rien passé. Personne n'était mécontent. Tout le monde était anesthésié, comme vous le disiez. Donc voilà, j'ai l'impression que ces jours sont comptés, voire ces heures.
On y reviendra là-dessus, sur Jean-Paul Delevoye, in situ personae. Mais Henri Vernet, pourquoi ce calendrier? Le dimanche, on a vu réunion à Matignon, puis à l'Élysée. Lundi, Jean-Paul Delevoye qui devait, soi-disant, amener ses conclusions, un petit peu comme la clôture d'un grand débat national sur les retraites.
Non, les conclusions, c'est vraiment...
Et mercredi.
C'est ça, voilà, le grand final du feu d'artifice, si je puis dire, ce sera... Et on verra d'ailleurs comment ça se traduira dans la rue. Ce sera Édouard Philippe. Donc ça traduit quoi? Ça traduit en effet cette idée qu'on respecte la méthode, vous savez, qui a été assez vendue comme étant l'acte 2 du quinquennat, un acte 2 qui serait celui de la concertation, et donc un Jean-Paul Delevoye qui a vu et revu beaucoup de partenaires, de syndicats, et qui en a juste là scrupuleusement tenu l'agenda. En effet, c'était aujourd'hui vide d'informations. En revanche, anesthésiant, non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Au contraire, si c'est un anesthésiant, eh bien bonjour le résultat. Il a mis 800 000 élèves. a réussi, il a réussi à réveiller les syndicats, à mettre 800 000 personnes dans la rue, et son projet,
au
contraire,
c'est pas lui, attendez,
laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui. Bah oui et non, parce que la manière dont il présentait la réforme, lui croyait, tout le monde a mal communiqué, et ça d'ailleurs, c'est l'un des points noirs de cette réforme, où on a eu une cacophonie gouvernementale sur un sujet aussi sensible, il faut au contraire que les violences soient accordées.
Mais ce que je veux dire,
juste une chose, au contraire, c'est lui qui a eu un projet, qui a montré un projet qui était réellement en rupture. C'est pour ça que là, en effet, ça fait presque un peu de peine de l'entendre dire, de faire l'énumération de ce que les Français, l'ADN, etc., des retraites. Et c'est lui qui a tenu bon, qui a même envoyé valdinguer le Premier ministre sur la fameuse clause du grand-père. Non, lui avait un projet qui était radicalement novateur. Alors, on peut apprécier ou pas du tout, mais il avait quelque chose qui était, au contraire, loin d'être un anesthésiant. Alors, aujourd'hui, la forme est un peu ça.
Mais là où vous avez raison, c'est que le président de la République est rentré de vacances. Et puis, à la stupéfaction générale, a dit non, finalement, moi je suis d'accord pour qu'il y ait un âge qui vaut. Et donc, Delvaux,
le chef de l'État avait retoqué l'idée d'âge pivot, lui préférant la durée de cotisation. D'accord, mais tout cela, qu'il y ait un âge pivot, une durée de cotisation, tout ça, c'est des mesures d'âge et des mesures paramétriques. Franchement, ça ne change pas la face du monde. Là où je persiste à dire que ce n'est pas la faute de Delvaux, c'est que lui, on lui avait donné un cahier des charges en lui disant il n'y aura pas de mesure d'âge, il n'y aura pas de mesure paramétrique. Pendant 2 ans, il a négocié avec les syndicats de bonne foi et il le croyait. Et puis un jour, Emmanuel Macron dit bah si, peut-être poussé
peut-être
par
que
Edouard
la
Philippe,
feuille de route, Gilles Bernstein a changé in fine.
La feuille de route a changé in fine.
D'ailleurs, il aurait dû partir tout de suite. Quand le président de la République a contredit ces 2 ans où on avait. Parce que moi, j'attendais quand même 2 ans. Et il a semblé que c'était vide. Et quand le peu qui était sorti a été contredit par le président de la République, je pense que le président Delvaux aurait dû donner sa démission.
Allez, 20h10 sur France Info. Premier appel de l'info avec vous, Guillaume Fariol.
Si vous avez eu du mal à aller travailler ce matin, ce ne sera pas mieux demain. 6e jour de grève contre la réforme des retraites. 10 lignes de métro de nouveau fermées à Paris. À la SNCF, un TGV est transilien sur 5, 3 TER sur 10. À son tour, le MEDEF critique le manque de clarté du gouvernement sur cette réforme. Il faut rapidement expliquer en quoi consiste ce texte, dit sur France Info le porte-parole de l'organisation patronale. Les présidents russes et ukrainiens autour de la même table à l'Elysée, sommet supervisé par Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel. Objectif, relancer le processus de paix en Ukraine secouée par un conflit entre les séparatistes pro-russes et Kiev depuis 2014. L'avocat de Patrick Balkany ne comprend pas le rejet de la libération de son client, il le dit sur France Info. La cour d'appel de Paris refuse la 3e demande de mise en liberté du maire de Levallois-Perret. 8 personnes toujours portées disparues et 5 morts après une éruption volcanique en Nouvelle-Zélande sur une île très touristique. Et puis Canal+ va continuer à diffuser une partie de la Ligue 1 de football dès la saison prochaine. Le groupe est en train de négocier un accord avec beIN Sport qui avait récupéré une partie des droits.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Il a été question en long, en large, en travers de ces 3 jours qualifiés de décisifs. Le gouvernement a-t-il eu raison d'attendre mercredi pour faire ses annonces? Olivier Besancenot, porte-parole du NPA, était votre invité, Gilles Bernstein, dans l'instant politique sur France Info. Écoutez son propos.
La réalité, c'est qu'on a un gouvernement qui joue la montre. C'est extrêmement dangereux parce que je vous fiche un billet, même un gros billet, que, évidemment, M. Édouard Philippe va ne faire que confirmer ce qui est annoncé depuis des semaines et des semaines. Donc, on joue le temps. Alors, c'est un pari de la part du gouvernement. Hein. C'est parier le fait que la mobilisation ne va pas passer le début de la semaine. C'est aussi un grand risque parce que plus les jours passent et plus toutes les frustrations sociales et politique de ces derniers mois risque de se réinviter et vous pouvez tout à fait avoir une crise sociale qui se transforme en crise politique majeure.
Gilles Bernstein, y a-t-il un risque à ce que nous restions sur notre faim ce mercredi? Il y aura quand même des annonces.
Alors là,
c'est très compliqué à savoir à l'avance.
Je ne suis pas dans le bureau du Premier ministre, ça m'aiderait pour faire les papiers et pour vous informer, j'aimerais bien. Mais enfin, si même mercredi, il a dit la totalité de la réforme, l'autre jour quand il a fait... Le détail de la réforme.
C'est ma question,
Voilà, je n'ai pas plus d'infos que vous. Mais alors là, après tout ce qui se passe en ce moment, la frustration en ce moment de ces jours où on ne sait rien, qu'il n'avance pas assez précisément dans le détail de la réforme,
je serais surpris et je ne lui conseillerais pas, parce que là on sent que s'il veut essayer de détacher un petit peu les syndicats réformistes du bloc assez compact CGT et FO, il faut quand même qu'il avance au moins un petit peu.
Roselyne Fèvre, pour poursuivre ce qu'avance Olivier Besancenot, sommes-nous passés d'une crise sociale à une crise politique pure ?
Non, c'est pas une crise politique, c'est une crise sociale pour l'instant qui continue et qui a un bras de fer avec un bloc contre bloc. Mais ceux qui devront aujourd'hui ou demain, après-demain, qui devront céder, c'est le gouvernement. Ce n'est pas les syndicats, puisque on connaît la position. La CGT, c'est non, et la CFDT, c'est si. Oui, s'il n'y a pas de mesures paramétriques. Donc les scénarios, on les connaît. Ça va être un. Il va y avoir trois reculs en réalité. C'est le système financier qui va être remis à plus tard, au calende grec, à la Saint-Glinglin, et il y aura un organisme qui sera là pour, voilà, on leur dira, vous gérerez les problèmes financiers. Le deuxième recul, ce sera la date d'entrée en vigueur. Est-ce que ce sera dans 40 ans ? Est-ce que ce sera...
Oui, donc une réforme, voilà. Mais lointain horizon, quoi.
Voilà, oui, oui. Donc en fait, on remet un peu à plus tard. Et troisièmement, les compensations qu'on fait aux profs, les compensations qu'on fait aux cadres, puisque on peut faire venir, en fait, trois syndicats, la CFDT, la CGC, oui. C'est-à-dire les cadres, et l'UNSA RATP, qui, elle aussi, serait d'accord s'il y avait des compensations. Donc, les pistes de travail, ce sont ces trois syndicats, et l'idée du gouvernement, j'imagine, comme Gilles, je ne suis pas dans le bureau, mais c'est de casser ce front syndical, et une fois de plus, que la CGT se retrouve toute seule à faire la grève.
Vous diriez-vous aussi, Sophie de Menton, que se profilerait, personne ne sait évidemment, mais ça a été quand même dit et redit à travers les lignes, une forme de report, quelque part, des mesures qui devaient arriver en 2025, quand même. J'ai l'impression que ça allait se faire tout du jour au lendemain, mais on va étaler dans le temps. Et puis, il y a une forme de renoncement aussi à des mesures rapides pour équilibrer les comptes. Hein.
Je ne suis pas si sûre, parce que moi, j'ai l'impression qu'Édouard Philippe n'y va pas pour faire de la figuration. Alors, d'après ce que je sais, il va vraiment donner en tout cas des éléments précis, alors qui conviendront ou pas. Évidemment, ça ne va rien faire cesser. Et ce qui est terriblement ennuyeux dans cette retraite, c'est que on va faire cesser des régimes spéciaux pour se lancer dans des régimes spécifiques. Je veux dire, c'est absurde. Et le système de compensation dont vous parlez, c'est grave parce que ça va coûter très cher, cette réforme. Très cher. Tout ça parce que c'est finalement, d'un point de vue de com, parce que finalement tout revient là, très mal géré. Et alors, et dernier point, j'ai peur que ce soit une crise politique. Parce que...
Pas encore.
Oui, mais là, vraiment, et moi, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que les politiques...
Ça le sera si la réforme est retirée, alors là, oui.
Ils pensent tous à leur carrière. Ils devraient être soutenus un petit peu, quand même, par la droite, parce que finalement, tout le monde est quand même plus ou moins d'accord sur cette nécessité. Et donc, finalement, ce qui a lieu, c'est un rejet de celui par qui la réforme arrive.
Et Henri Dernier, je vais vous faire réagir à ce que dit tout à l'heure le vice-président et porte-parole du MEDEF, Fabrice Le Sachez, il était l'invité de France Info.
Écoutez, soutenir le gouvernement, mais sur quel texte ? Aujourd'hui, personne ne sait en quoi consiste cette réforme des retraites. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi peut-être qu'il y a une mobilisation importante. Parce que lorsqu'on ne sait pas, c'est anxiogène, ça fait peur, on ne comprend pas, c'est confus, et ben donc on se mobilise. Le manque de clarté du gouvernement conduit, de fait, à mobiliser les gens parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas de visibilité. Et donc, il faut que rapidement, le gouvernement, aujourd'hui, explique en quoi consiste cette réforme.
Voilà donc le porte-parole du MEDEF chez Jean Lémarie dans l'instant écho sur France Info. Henri Vernet, manque de clarté, communication trop floue et puis anxiogène. C'est l'adjectif que je retiens de ce que dit ce porte-parole.
Alors, c'est pas faux. C'est vrai que cette réforme fait peur. Elle inquiète les gens. Je veux dire que s'ils sont dans la rue, c'est pas si autant de monde. Très clairement, et dans la rue, c'est pas uniquement pour défendre des régimes spécifiques qui ne concernent pas la plupart d'entre eux. Donc c'est bien qu'il y a cette angoisse, c'est peut-être angoisse de l'avenir d'un système dans lequel on baigne depuis des décennies et dont on n'est pas sûr de le voir perdurer. Donc oui, il y a ça parce que c'est vrai que cette réforme, les contours en sont pas assez précis. Alors maintenant que le MEDEF, lui, en réalité, ce qu'il voulait, c'était très simple, c'était une réforme à la Fillon, c'est-à-dire on touche, surtout, on change pas de système, on change pas points, mais simplement on allonge la durée de travail, c'est-à-dire la retraite à 65 ans et non plus à 62. Rappelez-vous d'ailleurs, quand il avait fait sa réforme Fillon sous Sarkozy, il pestait parce que la réforme c'était 62 ans et lui voulait monter jusqu'à 63 ans. Et bon, il était le premier d'ailleurs à dire que, en plus en France, une bonne réforme, c'est quand vous mettez 1 million de personnes dans la rue. Il se vantait d'avoir fait lui en 2010 ou 2 millions et demi, et en traitant au passage Macron de petit joueur. Voilà. Donc ça montre bien qu'en effet, le soutien du MEDEF est très loin d'être acquis au gouvernement. On voit, pour revenir à la crise politique que vous évoquez, oui, très clairement, ça en sera une si ce gouvernement recule. Et c'est pas Jean-Paul Delevoye qui est en équation, son départ ou non. C'est clairement Édouard Philippe. Et derrière Édouard Philippe, qui là, pour le coup, joue l'exact, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, joue l'exact rôle d'un premier ministre sous la cinquième, c'est-à-dire de porter une réforme au quotidien, le président prenant un peu de recul. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est l'enjeu? C'est tout simplement la capacité à réformer d'Emmanuel Macron. Il s'est présenté comme le candidat de la réforme. Au passage, d'ailleurs, on attendait de lui qu'il décorsette la société française. Pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose. Et donc, il sera bloqué si cette réforme-là, il doit reculer.
Roselyne Fèvre, comme le disait Gilles Bernstein tout à l'heure, hein, c'est comme la vie d'avant. On a un premier ministre un peu fusible dans l'histoire, finalement.
Il n'est pas fusible.
En tout cas, non, vous remarquerez que de toute façon, les manifs, qui est visé, c'est Emmanuel Macron depuis le début, y compris avec les gilets jaunes. Donc c'est vraiment la personnalité d'Emmanuel Macron qui est visée là-dedans. Mais ce que je dirais, c'est, alors vous parliez de crise politique, moi je dirais qu'il y a une mésentente politique, il y a une sorte de cohabitation entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, parce que Édouard Philippe, c'est la droite classique. Ah bah attendez, de cohabitation. Qui ne se voit pas. C'est-à-dire que la droite, elle, ce qu'elle veut, c'est faire des économies. Donc, c'est une réforme paramétrique qu'elle voulait. Emmanuel Macron, c'était pas son sujet. Son sujet, lui, c'était de refaire de la solidarité, refaire de la justice et refaire ce système à point. Marche dans les pays nordiques, même si en Suède ça a pris 10 ans à mettre en place. C'est ça, c'est que vraiment
justement
la droite et la gauche.
Parce que ça a pris 10 ans, ça marche parce que ça a pris 10 ans.
Exactement.
Et avec de la concertation.
Mais c'est pour ça que quand je dis qu'il y a une sorte de cohabitation, mais c'est un mot trop fort, bien évidemment. Mais c'est une mésentente là-dessus. Mais ça ne se verra jamais. Ça ne se verra pas à l'œil nu. Ça se voit dans les couloirs du pouvoir. Non. Ça se sent. Mais ils ne sont pas tout à fait d'accord. Tout comme Delevoye, qui ne s'entend pas avec Édouard Philippe. Voilà.
Allez, 20h20.
C'est pour ça que la com est un peu foireuse, pardonnez-moi l'expression.
Elle parle un petit peu dans tous les sens.
Parce que il y a ces éléments-là.
Il y a peut-être des désaccords de fond qui ne s'expriment pas forcément. 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Guillaume Fariol.
La réforme des retraites est nécessaire. Nous sommes déterminés à aller au bout. Les mots de Marlène Schiappa ce soir sur France Info. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, inflexible alors que la grève se poursuit. Un trafic extrêmement perturbé encore demain. Ce soir, la pagaille sur les routes d'Île-de-France. Jusqu'à 450 km de bouchons. Demain, nouvelle journée de manifestation interprofessionnelle. Le secrétaire national de la FSU, premier syndicat du primaire, promet sur France Info une forte mobilisation des enseignants. La contestation sociale qui s'étend au transport routier et logistique. 4 syndicats du secteur appellent à faire grève le 16 décembre, lundi prochain. Ils réclament de meilleures conditions de travail et une hausse des salaires. La majorité a désormais son candidat à la mairie de Marseille, Yvon Berland, ancien président de l'université ex-Marseille, choisi par La République En Marche. Un soutien et non une investiture, précise le parti. Condamné à 30 ans de prison dans l'affaire Kulik, Willy Bardon fait appel. Il est sorti du coma après sa tentative de suicide à l'énoncé du verdict vendredi. C'est un jugement politique, dénonce Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France Insoumise, condamné à 3 mois de prison avec sursis et 8000 euros d'amende. Condamnation pour rébellion après la perquisition mouvementée au siège du parti il y a un peu plus d'un an.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Guillaume Fariol évoquait la France bloquée, hein, et ça va évidemment éminemment se poursuivre demain. Emmanuel Macron peut-il aller au bout de sa réforme, si d'aventure certains syndicats, de très nombreux manifestants, réclament le retrait pur et simple du système. Par point, écoutez Philippe Martinez, sa détermination, le leader de la CGT qui était l'invité de France Info ce matin.
Nous, notre souhait, c'est que ça s'arrête. Si le Premier ministre, mercredi, nous dit « Ok, on s'est trompé, on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on s'est trompé, et on remet les compteurs à zéro et on étudie vos propositions, vous voyez qu'elles sont nombreuses, la grève, elle s'arrête tout de suite.
Vous y croyez vraiment ?
Henri Vernet, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de... Il peut y avoir un risque de retrait d'une réforme. En fait, Emmanuel Macron ne veut pas retirer sa réforme par points. Il veut aller au bout. C'est son quinquennat qui se joue dans ce virage-là. Mais la CGT et d'autres syndicats exigent le retrait jusqu'au bout hein, de cette réforme. Comment on finit ? Comment on sort de cela ?
Bah, c'est toute la question. C'est vraiment,
Parce que nous sommes au cœur du problème, là.
Mais bien sûr.
Au cœur du blocage.
Il faudra bien trouver un moment un compromis. Non, mais c'est ce que disaient mes camarades. C'est-à-dire que la CGT, certes, mais enfin, la CGT n'est pas le seul syndicat. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, enfin, dans toute cette affaire des retraites, c'est qu'on a vu des syndicats revigorés. On a vu, alors, trop longtemps ignorés, notamment, c'est vrai. Bah, si, revigorés, ne serait-ce que par les mouvements qu'ils ont pu impulser. Je veux dire, ne serait-ce que par le nombre de personnes qui sont mises dans la rue, alors qu'ils avaient échoué à le faire.
Syndicat
bah, oui, non, bah, oui, mais, alors, il y a le simple constat de ce qu'on voit, c'est-à-dire le nombre des gens mobilisés. Non, pas tous les syndicats. Non, enfin, il s'était rien passé pendant, enfin, presque rien, pendant la SNCF. Je veux dire que la loi El Khomri sous Hollande était passée également, je veux dire, malgré les cris d'orfraie des syndicats, et sans parler du Code du travail au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Là, on les voit redresser la tête. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'une société où le dialogue entre gouvernement, syndicats, patronat marche est quand même plus souhaitable. Je veux dire qu'il vaut mieux la société de Rocard que la société de la confrontation dans laquelle la France est retombée maintenant depuis des années.
Pardonnez-moi, mais comment on peut imaginer qu'on puisse obtenir un accord avec M. Martinez?
Alors, si j'avais pu finir, j'aurais justement dit que tout l'art était de composer avec les syndicats avec lesquels il serait possible de trouver malgré tout un terrain d'entente, au prix certainement de reculades, et de laisser un petit peu s'isoler les syndicats les plus contestataires.
Jim Bernstein.
Alors, n'en déplaise à Sophie, ce que dit Henri est incontestable. Les syndicats
ont été
revigorés. Il paraît que Castaner se vantait au Conseil des ministres qu'il y aurait 300 000 personnes dans la rue. Même d'après la police, il y en a eu 800 000. Donc, on peut...
Il y a un retour
des syndicats. Alors absolument. Après, une chose m'a étonné tout à l'heure, qu'on est tous d'accord pour dire que le but du gouvernement, enfin j'imagine qu'on est tous d'accord pour dire que le but du gouvernement, c'est de séparer le front syndical et de séparer l'UNSA et la CFDT du reste. Sur le canal 27, nous avions tout à l'heure le patron de la RATP, UNSA, qui nous a dit extrêmement clairement que l'UNSA nationale pouvait dire absolument ce qu'il voulait, que les grèves se décidaient sur le terrain et que lui, à l'unanimité, à l'UNSA RATP, ils ont décidé de s'aligner sur la CGT et d'aller jusqu'au bout, jusqu'au retrait. Et on me dit qu'à la CFDT cheminots, ils sont pareils, plus durs que Laurent Berger et qu'on pourrait être mercredi dans une situation... Laurent Berger et le patron de l'UNSA saisissent d'une certaine manière la main tendue par Édouard Philippe, mais que leurs troupes sur le terrain, dans les deux entreprises où ça se passe, où ils sont puissants, la CFDT à la SNCF et l'UNSA à la RATP, eux fassent le choix
Ce
que vous dites, Gilles Bonsoir, c'est de suivre la base, finalement, de céder à la base.
Qu'il y ait une gilet jaunéisation de la base et que la base ne voudrait plus suivre la tête du sommet des syndicats réformistes.
Sur ce face-à-face syndicat-gouvernement, je vous fais réagir à ça. Tiens, Sophie de Menton, voici ce que dit Jean-Baptiste Djebari, le secrétaire d'État au transport, qui était l'invité des 4 vérités sur France 2 ce matin.
Il y a eu quand même beaucoup de désinformation et de manipulation, notamment de la part des oppositions politiques. Et je crois que c'est très bien que mercredi, nous puissions faire absolument la clarté sur ce qu'est la réforme des retraites et les Français jugeront sur pièce. Je dis juste que dans le message politique, la CGT ne sera pas d'accord maintenant, elle ne l'était pas avant, elle ne le sera pas après. Et donc elle appellera évidemment à la grève après. Et je dis qu'il faut prendre cette réalité dans son ensemble. Le monde politique ne se résume pas à la CGT.
La CGT, pas d'accord avant, pendant et après, dit Jean-Baptiste Djebari, Sophie de Menton. Est-ce à dire que le gouvernement a déjà fait une croix sur, au fond, sa capacité à convaincre ?
Je crois pas. Enfin, ce serait dramatique, parce qu'il faut convaincre. Mais je voulais réagir par rapport à la grimace de Gilles sur le fait que, quand on prononçait le mot syndicat...
C'était pour vous taquiner, Sophie.
J'ai bien compris. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous avons, avec l'UNSA, au sein d'Éthique, collaboré, travaillé, c'est des gens que je trouve formidables, et que j'étais stupéfaite, en vous regardant tout à l'heure, contre, effectivement, UNSA... RATP, qui n'en a rien à faire. Rien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que des syndicats, dont la base échappe à une réflexion quand même sérieuse, il n'y a pas d'unité syndicale aujourd'hui, Martinez n'a rien à obtenir.
Parce que la bataille politique, elle a lieu sur le terrain syndical. C'est pas une bataille politique, bon, tout à l'heure, je parlais d'une forme, entre guillemets, de cohabitation entre Macron et Philippe sur leur, vraiment, sur ce que les uns et les autres veulent faire. Mais la bataille, la réelle bataille politique, elle est au sein des syndicats entre eux, entre les syndicats.
Justement, on va rester un petit peu sur cette question qui est importante, hein, ce que vous évoquez à l'instant dans la deuxième partie des Informés de France Info, 20h28. Nous marquons une pause pour la météo et le rappel de l'info. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Pour moi, le VIE est signe de réussite. Je dirige la branche Asie d'une marque de luxe et j'ai choisi Samia en VIE, qui n'est pas pour rien dans nos derniers chiffres.
Merci. Oui, après mon école de commerce, je voulais faire mes preuves. Et c'est super car... Pas maintenant, je suis en interview.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Avec Business France, sourcez vos futurs collaborateurs pour votre développement à l'étranger.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
Renseignez-vous au 0810 659 659.
Coût de l'appel, 5 centimes d'euros, puis prix d'un appel local.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions, avec vous Élodie Calac pour Météo France.
Un temps plus sec demain, seul le nord-ouest verra arriver une nouvelle perturbation avec du vent fort sur les côtes, quelques gouttes de la Bretagne à la Normandie, des pluies plus nombreuses en fin de journée sur la pointe bretonne. Entre le sud-ouest, le Poitou, le centre, la région parisienne et le nord, vous profiterez d'une journée bien ensoleillée. Quelques grisailles matinales tout de même, notamment vers la Garonne. Entre le massif central, les Alpes et le Grand Est, du gris. Encore quelques averses de neige sur le nord des Alpes le matin. Le risque d'avalanche faiblira en journée. Le soleil reviendra sur toutes ces régions. Et puis sur le sud-est, du soleil, encore beaucoup de vent le matin jusqu'à 100 km à l'heure, un cran en dessous l'après-midi jusqu'à 70 km à l'heure. On aura de petites gelées le matin et puis l'après-midi 6 à 14 degrés et jusqu'à 17 en Méditerranée.
Sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Encore quelques dizaines de kilomètres de bouchons ce soir en Île-de-France, mais rien à voir avec le début de soirée où un pic à 440 km a été atteint juste avant 18h. Conséquence évidemment de la grève à la SNCF et à la RATP contre la réforme des retraites, à la veille d'une nouvelle journée d'action intersyndicale. À Paris, mais également en région, patience et résignation étaient donc les sentiments dominants du jour. Reportage à la gare de la Part-Dieu à Lyon, Christophe Vincent.
Deux TGV pour Paris et pour Marseille, trois TER pour Mâcon et Saint-Étienne. Les jours se suivent et les tableaux d'affichage se ressemblent. Le programme de la soirée tient en 20 lignes et Roxane est dépitée.
C'est ma semaine de vacances, donc je montais à Paris et je me retrouve un peu dans la galère. Déjà après deux annulations de train, le bus qui vient pas, je vais être remboursée, mais j'en suis à peu près à un peu plus de 200 euros de frais. Moi je les soutiens quand même. Malgré tout.
Philippe, fonctionnaire, et Pierre, de Mâcon, sont moins indulgents.
Nous, travaillant dans du service public, et ben même si on a ce genre de problème chez nous, et ben on fait tout pour que le service marche. Et je pense qu'à la SNCF, ce n'est pas le cas.
Je prends mon billet et quand je vois qu'il n'y a pas de train, je me fais limite envoyer bouler par la personne qui est au niveau de la caisse. Les grèves, tout ça, c'est pas, enfin, je peux comprendre. Par contre, il y a aussi des manières de le dire aux gens et de communiquer derrière.
Julien rentre à Grenoble en covoiturage et il constate que l'offre est plus large.
Les gens qui, du coup, n'avaient pas de train, prennent les voitures et proposent des covoiturages et ça aide, quoi. On n'est pas tassé dans les voitures, etc. Donc c'est plus agréable.
Et demain, on verra bien, soupirent deux voyageurs qui vont encore passer la soirée à chercher un train sur Internet. En gare de Lyon-Pardieu, Christophe Vincent, France Info.
Et bien demain même régime, un 3 liaisons TER sur 10 assurées, un Transilien sur 5, un TGV sur 5 également, un Intercité sur 6. À Paris, 10 lignes de métro seront fermées demain. Les lignes 4, 7, 8 et 9 circuleront partiellement aux heures de pointe. Trafic normal en revanche sur les lignes 1 et 14 qui sont automatiques. Un autre mouvement de grève se profile à l'horizon. 4 syndicats de transport routier et logistique appelle à cesser le travail lundi prochain, le 16 décembre, pour réclamer de meilleures conditions de travail et de salaire. L'UFR-CFDT, premier syndicat de la branche, évoque des rassemblements et des blocages dans toutes les régions. C'est un jugement politique, s'étrangle ce soir Jean-Luc Mélenchon après sa condamnation à 3 mois de prison avec sursis et 8000 euros d'amende. Condamnation pour rébellion et provocation après la perquisition houleuse menée en octobre 2018 dans les locaux de la France Insoumise. À l'époque, le leader du parti avait bousculé un policier et un représentant du procureur en criant « La République, c'est moi, ma personne est sacrée ». À l'international, ils sont assis face à face devant une table ronde dans l'un des salons de l'Élysée actuellement. Les présidents russes et ukrainiens participent ce soir à un sommet sous l'égide de la France et de l'Allemagne pour tenter de négocier un semblant de paix en Ukraine alors que les troupes séparatistes et les soldats ukrainiens s'affrontent depuis 5 ans maintenant dans l'est du pays. Les séparatistes seraient armés par Moscou. Nouvelle phase dans l'enquête sur l'attribution du mondial de foot au Qatar en 2022. Un juge d'instruction a été nommé en France. Il doit enquêter sur des faits présumés de corruption passive et active. La suite des informés, 20h33, c'est tout de suite.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Roselyne Fèvre, la chef du service politique de France 24, avec Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Gilles, vous évoquez tout à l'heure évidemment les syndicats réformistes, parfois, eh bien, on va dire, rattrapés par une base, on va dire, très mobilisée, voire même, vous le disiez, presque radicalisée. Écoutez ce qu'a dit aujourd'hui Laurent Escure. Il est le secrétaire général de l'UNSA. Il a rencontré Jean-Paul Delevoye et pour lui, c'est évidemment 3 jours de trop.
Il y a 3 jours qui s'écoulent jusqu'à mercredi. C'est peut-être 3 jours de trop parce que on se rend bien compte que la crise sociale est en train de s'enquister et il y a urgence à ce que le flou autour de cette réforme soit levé. Donc vivement mercredi, mais en attendant, il y a des Français qui peuvent être y compris des victimes collatérales de ce moment assez particulier où on ne sait rien et où du coup la crise sociale s'enquiste.
Gilles Bornstein, je voudrais que vous poursuiviez sur cette idée. Ces leaders syndicaux aujourd'hui, au fond, épousent un mouvement qui n'est peut-être pas forcément sur les bases de la centrale ou pas?
Mais oui, enfin, c'est ce que j'ai constaté tout à l'heure, et ça fait plusieurs témoignages que j'avais comme ça. Je crois que les Gilets jaunes sont passés par là. On a vu que, à la base, dans les syndicats, à la base des syndicats, sur le terrain, ils sont pas sots. Ils ont bien vu que ce ne sont pas leurs leaders qui ont obtenu 17 milliards d'euros. Ce sont des gilets jaunes complètement désyndicalisés qui parfois étaient contre eux. Donc les gens, enfin les syndiqués à la base sur le terrain, ont peut-être l'impression que parfois ce ne sont pas, c'est pas ce que je dis moi, hein, oui, ont peut-être l'impression parfois que ce ne sont pas leurs centrales qui les défend le mieux et que parfois un peu de radicalité, voire de violence, ne saurait nuire pour obtenir des choses parce qu'ils constatent que c'est les gilets jaunes qui ont obtenu 17 milliards et qui en plus les ont obtenu après des samedis de violence.
Oui, oui.
Donc forcément, ça infuse dans leur tête et certains doivent se dire, bah, ils sont bien gentils de vouloir négocier avec le gouvernement, mais nous, on veut pas.
Est-ce à dire, Roselyne Fèvre, que ce mouvement est appelé à durer? Parce qu'au fond, les leaders syndicaux concernés disent bien, bel et bien, on ne quitte pas le système actuel. Hein.
En tout cas, c'est ce que dit effectivement la CGT. Ils ont été reboostés par effectivement cette manif qui a mis 800 000 personnes dans la rue. On verra demain, puisqu'il y a une autre manifestation qui est prévue. Mais en tout cas, c'est clair, le corps social se radicalise. Mais je dirais qu'il y a autre chose aussi, et là qui est plus embêtant, c'est que la cohésion sociale est en train de se fissurer. Et ça avait commencé avec les Gilets jaunes, où dans le fond, chacun est sur ce qu'il va se demander, moi combien je vais avoir et moi, et plus de solidarité. Alors ce que voulait faire initialement et ce qu'il avait expliqué dans son livre Emmanuel Macron, c'était remettre de la solidarité, remettre de la justice et remettre de la crédibilité vis-à-vis des jeunes qui pensaient qu'ils n'auraient pas de retraite. Ouais. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe un peu aux États-Unis dans le fond, c'est que personne ne veut payer pour les autres. Et aujourd'hui, c'est vrai, et ça on peut pas le contester, c'est pas parce que c'est un élément de langage du gouvernement, c'est vrai fait que il y a des corporatismes aujourd'hui et que cet état social se durcit et cette cohésion sociale se fissure.
Vous diriez, vous aussi, Henri Vernet, qu'il y a une forme de fracturation sociale aujourd'hui en France ?
L'archipélisation. Mais enfin, comme l'a dit Rosine, on l'avait bien remarqué l'an dernier avec la crise des Gilets jaunes. Bien sûr, il y a une fracturation, même multiple. Je veux dire que cette société est éclatée en plusieurs, cette fameuse archipel du politologue Jérôme Fourquet. Et on a vraiment du mal aujourd'hui à trouver qu'est-ce qui fera sens pour suffisamment de gens, de citoyens, de Français, pour amener un petit peu d'apaisement. Ce qui est formidable, par exemple, enfin formidable au sens propre, c'est-à-dire ce qui fait peur, c'est qu'aujourd'hui, vous posiez la question tout à l'heure de savoir est-ce que la réforme des retraites est anxiogène ou pas. Et la réponse à voir ce qui se passe dans la rue est plutôt oui. Mais pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui que toute réforme c'est un retour en arrière, c'est avoir moins que plus. Ce qui est quand même absolument... c'est fantastique, parce que normalement, réformer un pays, c'est plutôt le faire avancer. Non. En France, on a désormais ancré cette peur de la réforme, quelle qu'elle soit. Et c'est d'ailleurs là l'un des grands échecs d'Emmanuel Macron, qui s'était vraiment fait élire sur un programme de réforme.
C'est devenu
De décorseter. C'était c'était d'ailleurs un petit peu ce qu'il avait commencé à faire comme ministre de l'économie, et les fameux corporatismes de tout bord, de tout genre. Il s'y est heurté tout de suite, mais surtout, il s'est un petit peu fondu dedans.
Oui, parce que pour les Français, réforme égale recul, égale régression et égale entourloupe arnaque.
Oui, Sophie de Menton, nous avons changé de climat dans le quinquennat. Hein.
Pardon ?
Nous avons changé de climat dans le quinquennat. C'est-à-dire que la réforme à tout craint et à tout prix est devenue plus difficile.
Oui et non, je pense que c'est pas tellement une fracturation de la société qu'un individualisme forcené. Je veux dire que aujourd'hui, c'est moi d'abord. On le voit partout. Je me suis fait plaisir dans les émissions. C'est l'individualisme. Et donc,
ce que disait
on veut
Fèvre,
réformer absolument tout, sauf pour soi-même. Et d'ailleurs, quand vous regardez les sondages, c'est très intéressant. 65% des Français sont pour les grévistes et les soutiennent, mais 65%, 70% sont pour la fin des régimes spéciaux. Donc, je crois que et ce qu'ils veulent, ce qui est très intéressant, en fait, c'est de l'autorité. Et ce gouvernement qui a des tas de qualités, parce qu'il a essayé. Ce gouvernement n'a pas fait preuve d'autorité. Delvaux est exactement l'homme qu'il ne fallait pas à cette place-là.
On va parler de lui dans un instant.
C'est votre copain, lui.
Mais non, mais je l'aime beaucoup.
On va parler de lui dans un instant. Gilles Bernstein, est-ce qu'il y a un risque façon CPE, on se souvient, sous Villepin, cette réforme qui a été, on va dire, largement affaiblie et au fond, Chirac avait dû y renoncer?
Est-ce qu'il y a un risque ? Moi, j'ai le sentiment, comme tout le monde, on emploie des grands mots en disant c'est la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron s'il la retire. C'est pas la fin du quinquennat au sens où il sera quand même président de la République le lendemain. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que si la réforme est retirée, à mon avis, Édouard Philippe reste pas plus de 24 heures à Matignon. Je vois mal comment la. Je parle pas de recul. Je parle de retirer la réforme purement et simplement.
Il va pas la retirer.
C'est la question de Jean-François.
C'est répartition ou point. Voilà, c'est le cœur de la réforme.
De toute façon, tout est mieux pour le gouvernement. N'importe quel recul, n'importe quel aménagement, n'importe quelle avancée, n'importe quelle concession est mieux que retirer la réforme. Parce que moi, je pense, ça n'engage que moi, que retirer la réforme purement et simplement, le gouvernement ne peut pas y survivre et Emmanuel Macron ne peut pas se présenter en 2022. Oui. Donc, j'ai pas l'impression qu'il a été élu pour subir le même sort que François Hollande. Je suis pas certain que ça lui plairait beaucoup.
20h40 sur France Info. Un rappel de l'info avec vous, Guillaume Fariol.
La pagaille sur les routes d'Île-de-France en début de soirée, jusqu'à 450 km de bouchons. Conséquence de la grève dans les transports en commun contre la réforme des retraites. Le trafic sera très perturbé de nouveau demain. Un TGV transilien sur 5, 3 liaisons TER sur 10, 10 lignes de métro fermées à Paris. Ce n'est pas la rencontre de cet après-midi entre le gouvernement et les partenaires sociaux qui permettra de sortir du blocage. Nous n'attendions pas grand-chose, nous n'avons pas été déçus, regrette sur France Info le secrétaire confédéral de Force Ouvrière en charge des retraites. Il attend désormais mercredi et la présentation du texte par le Premier ministre Édouard Philippe. Après plus de 5 ans de guerre en Ukraine, un sommet en ce moment à l'Elysée pour tenter de relancer le processus de paix. Les présidents russes et ukrainiens autour de la table, tout comme Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel. une information judiciaire ouverte pour corruption dans l'enquête sur l'attribution du mondial de football en 2022 au Qatar. Décision du parquet national financier. Coupe du monde qui se fera sans la Russie, sanctionnée par l'Agence mondiale antidopage. Le pays également exclu des Jeux olympiques pendant 4 ans. Les athlètes pourront participer mais sous drapeau neutre. Et puis après l'éruption d'un volcan sur une île de Nouvelle-Zélande la nuit dernière, 8 personnes restent portées disparues. Le bilan est toujours de 5 morts.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
La réforme va-t-elle enfin, si elle a lieu, la réforme favoriser les femmes, 42% d'écart entre les femmes et les hommes pour les retraites, 38% des femmes touchent moins de 1000 euros. C'est ce que rappelait Marlène Schiappa sur un tweet, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, qui était l'invitée du 18-50 France Info.
Nous verrons ce que le Premier ministre annoncera. Moi, je pense qu'il prendra également des positions sur la question des mères de famille qui lui tient à cœur et qui est une question qui a pu aussi créer des inquiétudes. Je sais que le Premier ministre est en train de travailler pour lever ces inquiétudes, mais également sur la question de l'âge. Vous savez, il y a de nombreuses femmes qui sont obligées à l'heure actuelle d'attendre 67 ans pour pouvoir liquider leurs droits à la retraite faute de trimestres suffisants. Eh bien, nous diminuerons cet âge.
Vous dites quoi, c'est trop tard? C'est trop tard, 67 ans.
Bien sûr, c'est trop long d'attendre 67 ans. Nous diminuerons de 3 ans à 64 ans et ça, ce sera encore un progrès avec cette réforme de retraite pour les femmes notamment.
Roselyne Fèvre, les femmes attendent beaucoup d'une refonte de ce qui vous concerne au fond, ce qui les concerne, vous concerne dans ce système qui est très inégalitaire aujourd'hui.
Oui, vous voulez dire parce que je suis une femme aussi.
Oui, mais bien évidemment.
Mais
bien évidemment.
Non, mais c'est sûr. Oui,
quelle que soit l'issue de la réforme,
elles vont être les gagnantes.
Réforme,
hein. En tout cas, il y a des perdants, il y a des gagnants. Ceux qui seront perdants, on a vu que le gouvernement allait faire des compensations, etc. Donc voilà, pour que cette, puisque l'axiome de base de cette réforme, c'est l'équité et la justice, eh bien allons-y. Et c'est vrai que les femmes, les carrières hachées, vous partez pour élever vos enfants et puis finalement vous en avez marre d'aller faire le chocobéen à 4h de l'après-midi chercher vos enfants. Donc vous dites, tiens, ça serait bien que je reprenne une activité, mais bon, vous n'avez pas travaillé pendant quelques années, donc du coup, voilà, donc ça vous fait une carrière qui est effectivement ce qu'on appelle les carrières hachées. Donc, ce système à points pour les femmes serait effectivement une bonne
solution. Il faudrait surtout et d'abord qu'elles aient le même salaire que les hommes. Et
c'est
le
vrai
sujet, c'est
quand même
le 20%.
C'est ce que dit la CGT d'ailleurs. C'est l'argument de la CGT.
Alors oui, Gilles Bernstein.
Non, j'avais la même remarque que Roselyne. On dirait Philippe Martinez. Sur les carrières des femmes, il y a une autre chose importante dans la réforme, parce que Roselyne décrivait la situation d'une femme qui aurait le choix de partir élever ses enfants et puis qui reviendrait travailler. C'est aussi le fait que ce sont souvent des femmes, pour les raisons qu'on a dites d'interruption de carrière et de métiers précaires et de métiers à temps partiel, ce sont souvent les femmes qui arrivaient, qui avaient cotisé et qui n'avaient pas et qui avaient des retraites inférieure à 1000 euros, et ce sont surtout des femmes qui bénéficieront du fait qu'il n'y aura pas de carrière de retraite à temps plein en dessous de 1000 euros.
Et nous verrons bien mercredi quelle place sera réservée à ce sujet dans le discours du Premier ministre. Vous évoquiez tout à l'heure Jean-Paul Delevoye qui a annoncé, vous le savez, dans un communiqué qu'il démissionnait de sa fonction d'administrateur de l'Institut de formation de la profession de l'assurance pour clore la polémique. Le haut commissaire aux retraites n'avait pas déclaré cette fonction bénévole à la haute autorité pour la transparence de la vie politique. Jean-Luc Mélenchon, qui a tenu une conférence de presse pour évoquer sa propre condamnation après la perquisition houleuse au siège de son parti, a réclamé une sorte de démission du haut-commissaire. On l'a entendu aujourd'hui sur France Info.
Monsieur Delevoye, je m'en fiche, ils font ce qu'ils veulent. Mais maintenant, chaque fois qu'il apparaîtra quelque part, on dira « Tiens, voilà, t'as le bonjour des assurances privées ». Cet homme est disqualifié par ses liens. Alors en plus, il dit qu'il a oublié par omission, bon, déjà un petit progrès en français, ça serait pas mal, mais il nous prend pour qui, quoi? Comment c'est possible une chose pareille? Comment est-ce qu'on peut oublier qu'on est membre d'un conseil d'administration? Il se moque de nous, donc il a fait exprès. Et puis me racontez pas d'histoire, c'est mensonge en réunion leur affaire. Me dites pas que le président de la République et son cabinet n'ont pas cherché à connaître la trajectoire de monsieur Delevoye. Ne me dites pas qu'ils ne savaient pas. Ils ont eu quand même assez de déboires. Le tiers de ce gouvernement a eu un problème avec ses déclarations d'intérêt. Le tiers, c'est quand même pas banal pour des gens qui prétendaient être différents des autres.
Sophie de Menton, vous qui avez fait de belles déclarations sur Jean-Paul Delevoye au début de cette émission, vous pensez qu'il est fragilisé aujourd'hui, comme le semble dire Jean-Luc
Mélenchon ? Non, et alors je voudrais avoir des nuances, parce qu'il est possible d'avoir des nuances. J'ai donc eu Jean-Paul Delevoye comme président pendant 5 ans, et j'ai eu l'occasion de vérifier personnellement à un moment précis que c'est un honnête homme. C'est vraiment un honnête homme, et je pense qu'il y a probablement une maladresse quelconque, mais en aucun cas je ne pense qu'il a tiré profit, qu'il comptait tirer profit. Je pense que c'est anecdotique. Je pense que de la part de Mélenchon, ce type de réflexion est risible.
Ouais. Ouais, je vais faire écouter d'ailleurs ce qu'en dit un membre de la majorité, en l'occurrence il s'agit d'Aurore Berger, la porte-parole de La République En Marche sur BFM TV.
Oui, c'est maladroit. La confiance nécessite énormément de transparence sur la manière avec laquelle on peut gagner nos vies, etc. Donc, il est évidemment nécessaire que la haute autorité a eu raison de faire son travail et de dire qu'il y avait un oubli. Cet oubli va être corrigé et il démissionne de ce mandat-là pour tout à fait clarifier les choses dès ce matin.
Fin de la polémique, vous diriez, Henri Vernet?
Je suis pas sûr, parce que c'est quand même fâcheux. Je suis pas d'accord avec la manière dont vous l'exonérez comme ça de tout péché. Alors certes véniel, bien évidemment, mais enfin c'est quand même formidable cette tendance qu'on a en France, qu'ont les politiques français à mettre comme ça sous le bois, à considérer eux-mêmes ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire. Est-ce qu'on doit se soumettre comme tout un chacun à la loi, des obligations en l'occurrence qui les concernent eux, c'est-à-dire la transparence sur leurs activités, leurs intérêts, leurs possibles conflits d'intérêts. Écoutez, alors bien sûr la fonction elle-même était bénévole. Mais le fait de siéger dans un organisme qui a quand même tout sauf qui a plutôt des rapports avec bien évidemment les retraites, puisqu'on parle d'assurance, du monde de l'assurance, eh ben non, c'est fâcheux que pour un haut commissaire aux retraites, on s'abstienne de déclarer cela. Il y a décidément, alors quand j'entends Aurore Berger aussi, de pareil, allez, on s'exonère, mais c'est vraiment un climat particulier, une culture particulière et qui est très ancien monde, mais qui malheureusement ne change pas d'un iota, de considérer que la morale publique, la moralisation de la vie politique, eh ben ce sera pour demain, pour après-demain, un petit peu les régimes spéciaux, je ne sais pas si ce sera pour 2060, mais la moralisation de la vie politique, ça se fait attendre aussi.
Sophie de Menton, au-delà de ce que vous dites, là, on avait peur du conflit d'intérêts.
Et mais
cette espèce de panique du conflit d'intérêts, ça veut dire qu'on aura des politiques qui n'auront jamais bossé auparavant. Parce qu'il y a toujours un moment dans votre carrière où vous faites quelque chose.
Oui, mais il faut faire preuve de clarté.
Pas forcément dans l'assurance.
Oui, non. Écoutez, d'abord, il n'y siégeait pas, il l'a dit lui-même et on ne le voyait jamais. Je pense qu'il faut aussi arrêter de vouloir absolument être plus blanc que blanc. Il faut être...
Non, blanc tout court, ça suffira.
Blanc tout court,
comme dans pas mal de pays européens, qui ont un rapport beaucoup plus mature à la démocratie.
Roselyne Ferb, il sort affaibli de toutes ces épreuves.
Oui, il sort affaibli pour plusieurs raisons. D'abord, il a mal communiqué. Autant, vous parliez tout à l'heure du CPE avec Dominique Villepin qui était monté sur le cheval sans l'avoir scellé, donc évidemment le CPE a disparu dans les nimbres. Et là ça fait deux ans effectivement qu'il y a des négociations et on a l'impression qu'il a trop négocié et qu'il se passe rien. Il a été contre la clause du grand-père, il s'entend pas avec Édouard Philippe. J'ai l'impression entre guillemets qu'il y a un petit côté boulet maintenant pour le gouvernement. Je suis d'accord avec Sophie, et à la fois avec Henri, c'est qu'il est quand même, je pense que c'est un honnête homme, c'est pas écrit sur la tête honnête homme, mais bon, il me semble. En revanche, là où je suis d'accord avec Henri, c'est que quand on a comme ça on s'occupe de choses importantes au niveau politique,
des responsabilités,
y a des soupçons, parce qu'il y aura un filet de soupçons. Sur le fait que, les assureurs peut-être seraient un jour facilités dans la future réforme.
Gilles Bernstein.
Enfin, je vais dire un truc horrible, mais franchement, désormais, on s'en fout. Oui. Parce que c'est le rôle de Jean-Paul Delevoye, c'est terminé.
C'est
complètement terminé. Maintenant, ça va se passer même pas au déjeuner de la majorité.
Vous l'enterrez, vous, déjà.
Ça va se passer demain dans le bureau
du président
de la République.
Sa
mission est close. Ça va se passer demain dans le bureau du président de la République entre Emmanuel Macron, Édouard Philippe. Peut-être.
Je partage tout à fait votre analyse.
Mais on est d'accord. C'est sur le principe, c'est sur la théorie, c'est tout sur le principe.
Est-ce qu'il est affaibli, pas affaibli, etc. on s'en fout complètement, son rôle est terminé.
Allez, c'est dit, c'est 20h50 minutes sur France Info.
Il a dit que ça continuerait jusqu'en 2020, oui, les négociations.
Attention. Rappel
attention.
De l'info avec vous, Guillaume Fariol.
Le haut-commissaire aux retraites le répète, la réforme du système est indispensable. Les générations futures nous seront reconnaissantes. Jean-Paul Delevoye a présenté ses conclusions après 2 ans de concertation avec les partenaires sociaux. Le projet de réforme, lui, sera dévoilé après-demain par le Premier ministre Édouard Philippe. Demain, 6e jour de grève et nouvelle journée de manifestation interprofessionnelle. Les enseignants, personnel des hôpitaux, policiers également. Les 3 principaux syndicats des gardiens de la paix promettent de durcir leurs actions si le gouvernement ne garantit pas le maintien de leur régime spécifique. Eux réclament de meilleurs salaires et conditions de travail. Plusieurs syndicats du transport routier et logistique appellent à la grève lundi prochain. Des actions de blocage, entre autres, prévues à travers la France. Willy Bardon fait appel de sa condamnation à 30 ans de prison dans l'affaire Kulik. Il est sorti du coma après sa tentative de suicide à l'énoncé du verdict vendredi dernier. Yvon Berland, ancien président de l'université Aix-Marseille, décroche le soutien de la majorité pour les municipales de l'an prochain dans la cité phocéenne. La République En Marche insiste, c'est un soutien, pas une investiture, ce qui ouvre la voie à une liste de rassemblements. Et puis pour suivre la Ligue 1 de football la saison prochaine, il faudra toujours être abonné à Canal+. Le groupe va continuer à diffuser une partie de la compétition. Il négocie un accord avec son rival Beansport qui avait récupéré une part des droits.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous évoquions à l'instant le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, condamné à 3 mois de prison avec sursis, 8 000 € d'amende en octobre 2018, faut-il le rappeler, devant les caméras de télé. Le leader d'opposition s'était opposé donc avec virulence à cette perquisition à son siège du parti. Pour lui, pour Jean-Luc Mélenchon, le retour, il s'est agi d'un procès politique.
Je dénonce cette instrumentalisation politique de la justice, l'impunité totale de policiers menaçants. Et je déplore que chacun de ces épisodes reçoive une attention complaisante qui permet de recycler des images flétrissantes contre moi, des accusations sans preuve qui sont répercutées. Je suis en train de répondre de ce cirque médiatico-juridique, alors que, comme vous le savez, je suis en pleine bataille contre le gouvernement pour lui faire abolir sa loi sur les retraites et que, honnêtement, il n'y a que ça qui m'intéresse aujourd'hui.
Henri Vernet, regard sur cet épilogue dans cette affaire de perquisition musclée.
Bon, ce spectacle, le cirque, comme il l'appelle, c'est quand même lui qui l'a créé. Il en est l'initiateur. C'est lui qui a déclenché les foudres. Donc c'est un petit peu comique de venir aujourd'hui s'en plaindre. En plus, de toute façon, c'est le rôle, c'est la posture qu'il affectionne.
C'est presque un trophée, finalement, cette condamnation.
Bien sûr, mais oui, à la limite, il aurait été condamné à de la prison. Il, comme Zola, finalement, il en aurait encore peut-être été encore plus satisfait. Ce qu'il a d'ailleurs, ce qu'il aurait pu encourir, parce que si on théoriquement, l'infraction, enfin la manière dont il s'est dressé comme ça contre des hommes de loi. Est punissable de beaucoup plus que ce dont il a occupé. Donc non, c'est une posture qui est choisie. Mais là encore, j'en reviens à ce que je disais juste avant sur le cas Delevoye. Cette capacité incroyable des hommes politiques français de se mettre au-dessus des lois, quels qu'ils soient, c'est quand même phénoménal. C'est, je veux dire, je ne sais pas si c'est unique,
quel que soit le sujet,
mais quel que soit le sujet, c'est vraiment notre culture et c'est notre déficience de culture démocratique. Et alors, justice politique, écoutez, cette semaine, on a appris la mise en examen de François Bayrou, de la moitié de tout l'état-major du MoDem, je veux dire que Richard Ferrand, on a quand même une Assemblée nationale qui est présidée par un mise en examen, etc., etc. Emmanuel Macron lui-même ne donne vraiment pas l'exemple quand il affirme en plein Conseil des ministres son allié politique qui est donc mis en examen, l'affirmer de son soutien. Voilà, c'est ça. Et décidément, cet ancien monde, on est englué dedans, on a du mal à en sortir.
Roselyne Fèvre, enfin, je suis un rebelle officiel. C'est une affaire de patience, a même ajouté Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes peut-être pas forcément tout à fait d'accord.
Non, je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense qu'il le paye très très cher. Donc maintenant, il peut faire le fier à bras. Mais enfin, quand même, depuis cette histoire, Jean-Luc Mélenchon, il est quand même un peu. Il se fait une place entre deux acariens sur la moque. On le voit plus beaucoup. Il a fait quand même 6% aux européennes.
Mais c'est pas à cause de cette affaire, je comprends pas.
Il a quand même pris un coup sur la tête. Et ça, je pense qu'il l'a très très mal vécu. D'ailleurs, c'était frappant aujourd'hui parce que là, l'extrait qu'on a vu c'était à la sortie du tribunal, oui. Mais il a fait une conférence de presse.
Oui,
ce
dont on a entendu un extrait aussi également.
Il n'en a absolument pas parlé. Donc c'est comme s'il voulait évacuer d'un revers de main.
On a entendu ses propos sur Marine Le Pen vendredi.
Oui, mais ça, c'est encore une erreur politique.
Alors, erreur politique, plus erreur politique que bien faire la justice là-dedans.
Donc, il a l'air de dire, en gros, que vaut mieux Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron.
Mais... Donc, Gilles Bronstein, sur cet épisode judiciaire.
Je suis plutôt d'accord avec Roselyne. Je pense qu'il fait le fier à bras, mais que finalement, comme d'habitude, cette condamnation confortera ceux qui pensent que la Ve République est un régime autoritaire avec un président monarque qui fait exactement ce qu'il veut, y compris faire condamner ses adversaires
politiques.
Mais
qu'est-ce qui vous permet de dire ça, qui fait condamner son adversaire politique? Enfin, qu'est-ce qui permettrait, objectivement, mais que Mélenchon pourrait dire ça et qu'on pourrait penser ça? Objectivement, comment est-ce qu'on peut le montrer, ça?
Je suis tout à fait d'accord avec vous, Henri. Je pense qu'il y a un certain nombre de sympathisants, le noyau dur de la France insoumise, pense qu'on est dans une monarchie où le régime fait ce qu'il veut et fait condamner ses adversaires politiques. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon quand il dit que c'est la justice politique. C'est pas ce que je pense moi. C'est ce que pense le noyau dur de la France insoumise. Mais c'était justement mon propos. Ce noyau dur-là, c'est 6%. S'il veut espérer aller plus loin, il faut qu'il convainque d'autres personnes. Et je pense que ces autres personnes, sachant que c'est un condamné, sachant qu'il est condamné pour rébellion, aura un peu de mal à faire confiance à quelqu'un qui pète les plombs aussi facilement en se disant si un jour il a les clés du camion, si trois gendarmes énervés lui font péter les plombs, qu'est-ce que ça sera quand il sera en égo face à Donald Trump ou Vladimir Poutine?
Il a piétiné son jardin.
Voilà. Ça lui fasse du bien parce qu'il doit élargir sa part de marché. Et c'est pas avec ce genre de condamnation qu'il y arrivera.
C'est le mot de la fin. Il est temps de conclure. D'habitude, Sophie de Menton, vous nous vendez votre chronique pour Challenge, mais là. Rapidement, vous avez une anecdote,
j'ai une anecdote qui est formidable parce qu'elle est révélatrice de l'époque. Je prends un Uber juste la veille du 5 décembre et dans mon Uber, je bavarde. Et il me dit, je lui dis, c'est pas trop dur, etc. Il dit, non, de toute façon, moi j'ai deux métiers. Je lui dis, vous faites quoi? Il dit, je suis agent de station à la RATP. Alors, suffoqué, je lui dis, mais vous allez faire grève demain? Il me dit, c'est un bon jour. Et je trouve que c'est pas, je critique pas. Cet homme, il faisait grève, c'est une chose, mais c'est l'époque qui est en jeu. Il a une plateforme, il est Uber le soir et il est en train de faire grève pour
visiter
à la RATP. C'est quand même urgent.
Visiter combien de fois? 200 000, c'est ça?
Ah là, c'est hallucinant. Effectivement. Mais c'est intéressant, c'est un symbole d'époque.
La une du Parisien aujourd'hui en France, Henri Vernier demain, pour conclure.
La grande débrouille des Français face à la grève, alors peut-être avec Uber, je ne sais pas.
Merci à vous, Roselyne Fèvre, Henri Vernier, Sophie de Menton et Gilles Bornstein. À demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info. Bonne soirée.